Avoir raison avec Élisée Reclus, Marie-Lise de Saint-Salvi.
Après l'échec de sa colonie utopique en Colombie, Élisée Reclus revient en France en 1857, malade et désargentée. Dans ce deuxième épisode de Avoir raison avec Élisée Reclus, le géographe est de retour à Paris, ville dans laquelle il intègre la grande société de géographie. Pendant cette période, il multiplie les voyages, poursuit ses engagements militants et publie ses premiers écrits scientifiques avec pour objectif de rendre la géographie populaire. Une ambition pas seulement pédagogique, mais aussi démocratique. Alors, pourquoi un peuple devrait-il connaître la géographie? Et quels sont les enjeux de pouvoir derrière cette discipline? Car avec Élisée Reclus, parler de géographie et de politique ne suffit pas. Il faudra aussi parler de géopolitique, qui en est alors à ses balbutiements.
Plus secret et moins fréquenté, le club des explorateurs. Sous l'œil de la Pérouse, chaque mois, se réunissent des gens que généralement on ne rencontre pas à Paris. Ils sont au Mato Grosso, au Tibet, en Terra Deli, au Tanezroft. À chacun de leurs passages, ils se retrouvent, s'interrogent, se racontent un peu. Gardinier vient de parcourir le Hogar. Monsieur et Madame Villaret arrivent d'Océanie. André Lyotard est allé au pôle sud. Jacques et Betty Villeminot ont appris à lancer le boomerang avec les papous d'Australie centrale. Et, un peu plus loin, Bertrand Flornoy rêve des sources de l'Amazone. Sortons sur la pointe des pieds.
Bonjour Béatrice Giblin.
Bonjour.
Vous êtes géographe et directrice de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Je précise aussi que vous êtes l'une des premières géographes en France à avoir consacré votre thèse à Élisée Reclus. C'était en 1971. Et donc à avoir contribué à sa réhabilitation dans le champ scientifique. Mais avant de parler de sa postérité, je voudrais que l'on commence par présenter l'état de la géographie à cette époque. Alors, qu'est-ce que la géographie en France dans la deuxième moitié du 19e siècle ?
C'est un savoir qui, comme vous venez de le montrer dans votre rappel de 1961 des explorateurs de la Société de Géographie, et vous remarquez qu'il y a même des couples, hein, on part avec sa femme. C'est un milieu, évidemment, qui est un milieu aisé. Bien sûr, il faut avoir les moyens pour pouvoir faire ce genre de voyage à cette époque. Mais c'est l'idée que on doit absolument effacer les blancs sur la carte du monde. Voilà, on doit tout aller découvrir et raconter surtout. Avec un objectif qui est un objectif de la connaissance, découvrir, mais aussi peut-être on pourrait découvrir des ressources. Peut-être il serait possible d'intéresser des entrepreneurs. Il y aurait peut-être un peu des affaires à faire aussi. Donc il y a à la fois le côté de l'exploration, de la connaissance, tout à fait, j'allais dire, sans engagement d'intéresser fort, mais derrière, il y a aussi ce côté, car qui fait partie de la Société de géographie de Paris, qui est quand même la première au monde. Hein.
Oui, il faut nous expliquer ce que c'est que la Société de géographie.
Eh bien, la Société de géographie, c'est justement réunir des individus ayant à la fois une grande curiosité pour la découverte du monde qui est encore assez... Pas inconnu, ce serait exagéré. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup de terres à découvrir. À quoi ça ressemble, ce que c'est, voilà. C'est aussi la période de la colonisation qui commence. Hein. 1830, c'est le début de la colonisation de l'Algérie. Donc c'est ce 19e siècle-là qui est important. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a déjà un peu d'avance là-dedans, avec la Compagnie des Indes, par exemple, qui est une entreprise privée. Et l'État n'y viendra que pour lui donner main forte avec la révolte des Sipayes en Inde plus tard. Donc il y a cette curiosité pour le monde et puis aussi cet engouement pour se dire on va peut-être pouvoir continuer à faire du développement, à s'enrichir tout simplement. Donc cette Société de géographie, c'est véritablement, on va dire, une forme d'aristocratie, mais post-révolution française, bien sûr, et des esprits curieux. Alors, le plus étonnant, c'est que Élisée Reclus va être acceptée à cette Société de géographie.
Alors, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on l'intègre?
Alors, cooptation. Mais c'est toujours comme ça. Mm-hmm. la Société de géographie aujourd'hui, en 2025, on est toujours coopté. Voilà, d'accord. On est choisi pour aller à la Société de géographie.
Mais donc, en 58, quand Élisée Reclus les rejoint...
Il a 28 ans.
Il a 28 ans et... À l'époque, on comprend donc que la géographie, c'est quelque chose qui est très lié aux puissants et au pouvoir.
Oui et non. Oui et non. Alors, c'est sûr que la géographie est un savoir très ancien, et ce savoir a été au service du pouvoir, ou des pouvoirs, bien sûr. Bon. Et puis, à la fin du 19e, il y a une part de la géographie qui va s'éloigner de ça, pour partir sur... l'enseignement. Mmh. Alors, mais ça vient de situations qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de géopolitiques. Parce que qu'est-ce qui enseigne la géographie à ce moment-là ? En fait, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne que naît l'enseignement de la géographie, avec quelqu'un qui s'appelait Karl Ritter, dont Élisée Reclus a été l'étudiant. Donc, pourquoi en Allemagne c'est si important ? Ben parce qu'en Allemagne, il y a, comme pour les autres, l'idée de la conquête, de la découverte du monde, de la connaissance, mais il y a un projet qui est un projet politique, qui est celui de la Prusse, à ce moment-là, de l'empereur, qui est quand même de réunir et de constituer ce grand État que deviendra effectivement l'Allemagne, qui n'existe pas en tant que telle à ce moment-là. Donc, apprendre et découvrir le monde, apprendre de quoi est fait le monde, apprendre la géologie, apprendre tout ce qui relève des sciences naturelles, de la végétation au climat, tout ça c'est très très important à connaître. Puis vous avez un autre personnage essentiel qui est von Humboldt, hein, qui donne son nom à l'université de Berlin encore aujourd'hui, qui est un personnage absolument étonnant et qui a fait des voyages. Alors Ritter c'est un géographe de cabinet, il voyageait pas. Von Humboldt, c'est un grand voyageur. Et je pense que pour Élisée Reclus, von Humboldt est un personnage extrêmement important et essentiel.
Mais oui, Élisée Reclus est très attachée à l'enseignement de la géographie et il va d'ailleurs participer à une forme de renouvellement de cet enseignement, et notamment en proposant des ouvrages pédagogiques plutôt dédiés aux enfants.
Oui, enfin, dédié aux élèves, je dirais, pas forcément aux enfants. Mais vous savez, la géographie n'était pas enseignée en France avant. Hein, il n'y avait pas d'enseignement de la géographie. Là où la géographie va être enseignée, c'est, je vous dis, dans des contextes géopolitiques. En Allemagne, c'est parce que c'est l'idée qu'il va falloir construire un État sous l'autorité de la Prusse. Mais en France, quand est-ce qu'on décide d'enseigner véritablement la géographie à l'école, à tous les enfants, garçons ou filles, de France et de Navarre, c'est après la défaite de 1870. Mmh. C'est-à-dire, ils doivent découvrir la beauté de leur patrie pour avoir envie de la défendre quand il va falloir aller récupérer l'Alsace et la Lorraine de langue germanique, bien sûr.
Mais tout de même, quand il publie L'histoire d'un ruisseau, c'est en 1869.
Oui.
Et là, c'est un ouvrage dans lequel il y a une véritable tentative de diffusion de la connaissance.
Oui, vous avez raison, c'est un ouvrage d'ailleurs qui est toujours aussi charmant à lire, je dois dire, et ça a eu un grand succès. Il a le souci en fait de transmettre. Pour lui, la géographie est un savoir, vous l'avez dit dans votre présentation très justement, démocratique. Tout le monde doit avoir accès à la connaissance. Tout le monde doit pouvoir comprendre ce monde contemporain qu'il est en train de décrire. Il doit leur donner, j'allais dire, envie d'attendre, on parlera sans doute de sa nouvelle géographie universelle, qui est publiée en petit fascicule hebdomadaire. Donc, il faut que ses lecteurs attendent le petit fascicule de 3 ou 4 sous qu'ils vont aller acheter et qui va les faire rêver et qu'ils vont lire avec, j'allais dire, gourmandise d'une certaine façon. Oui, il a cette préoccupation-là, vous avez raison. Et l'histoire du ruisseau est d'ailleurs beaucoup mieux, plus réussie que l'histoire d'une montagne,
qui est
moins bien réussie.
Mmh. Et donc, fort de ce principe démocratique, comment est-ce qu'on peut décrire exactement la géographie que propose Élisée Reclus ? Est-ce qu'il a une méthode particulière ? Est-ce que son approche est particulière ?
Alors, d'abord, c'est comment il s'informe. Mmh. C'est quelqu'un qui parle 6 langues, donc il parle Bien sûr, l'allemand, puisqu'il a eu, il est parti très tôt chez les frères Moraves. Bon, mais ça, on a dû vous le raconter déjà. Donc, il va parler l'allemand. Il va faire des études en Allemagne. Il va suivre des cours en Allemagne. Il est exilé au moment du coup d'État du Second Empire. Il part en Angleterre. Il va séjourner longtemps en Angleterre. Donc, il parle l'anglais. De là, il va partir aux États-Unis. Donc, il va continuer à parler anglais. Ensuite, il s'en va en Amérique latine. Donc, il apprend l'espagnol, bien sûr. Donc, on est déjà à ça. Et après, comme il est très très proche de Kropotkin, qui est le prince Kropotkin, ami géographe et anarchiste, évidemment, il parle un peu le russe. Il se débrouillera un petit peu aussi en hongrois avec son ami de Gérando, qui est hongrois. Donc son réseau d'anarchistes, qui est important, va l'amener à parler vraiment très bien six langues et en comprendre un certain nombre d'autres. Deuxième chose, c'est que il lit la presse. Et il lit la presse étrangère, ce qui n'est pas si facile que ça à l'époque, mais il voyage dans les bibliothèques. Donc, quand il est exilé en Suisse, du côté de Lugano, il passe énormément de temps à Milan. Et il lit toute la presse qu'il peut avoir. Il va à Vienne, il lit la presse à Vienne. Il va très souvent à Londres et il lit la presse étrangère qui arrive à Londres. Il va en Allemagne. Donc, il s'instruit par une information, à la fois son réseau anarchiste, mais aussi par une presse étrangère. Troisième élément, ça va être tout ce qui s'écrit par des scientifiques, guillemets ou pas guillemets, mais par des scientifiques. Alors, ce ne sont pas forcément universitaires, mais ce sont des explorateurs, ce sont des grands voyageurs, ce sont ou qui écrivent des ouvrages de géographie reconnus comme tels. Donc, il apprend tout ça. Il est aussi très curieux d'histoire, donc il lit énormément, énormément d'ouvrages d'histoire. Mais il lit aussi des ouvrages, on dirait, de sociologie, des ouvrages d'ethnographie. Donc il a véritablement une approche encyclopédique, si vous voulez. Sa conception de la géographie est extrêmement large.
La zone principale du Froment, c'est-à-dire le Pendjab et le haut bassin du Gange et de la Jamna, est celle où la race est la plus vigoureuse et résistante. Soit parce que sa nourriture est plus fortifiante, soit parce que le sang a été fréquemment renouvelé par les envahisseurs descendus de plateaux de l'Ouest. Ou plutôt parce que le sol, mieux cultivé et mieux défendu contre les émindars, nourrit plus généreusement les fraternités qui le possèdent. Les famines sont une institution de l'Inde, ont coutume de dire les administrateurs. Depuis 1771, année pendant laquelle 10 millions d'individus succombèrent à la faim dans le Bengale et le Béhar, 21 grandes famines se sont succédées, et 8 de ces calamités ont fait des victimes par millions. Et tandis que tant de malheureux périssaient faute de vivres, le port de Calcutta continuait d'expédier des grains à l'étranger en quantité considérable. Les faméliques étaient trop pauvres pour acheter le blé qui les eût sauvés.
France Culture, avoir raison avec Élisée Reclus. Marie-Lise de Saint-Salvi.
Nous venons d'écouter un extrait de la nouvelle Géographie universelle, le volume 8, publié par Hachette en 1883. Béatrice Gibelin, avant de commenter ce passage, je voudrais que vous nous présentiez cet ouvrage monumental qu'est la nouvelle Géographie universelle.
Ce type d'ouvrage était totalement inédit. Il existait déjà des géographies universelles, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'a fait Élisée Reclus. C'est pour ça qu'on peut vraiment le qualifier de nouvelle géographie universelle. C'est extrêmement important. Il y avait eu Malte Brun qui avait fait une géographie universelle, mais qui était, j'ai dit, particulièrement sèche et un peu ennuyeuse, avec des données qui étaient, on va dire, administratives. Avec Élisée Reclus, la géographie devient vivante. La géographie est extrêmement dynamique. Il est absolument convaincu du dynamisme des sociétés et aussi de ce qu'on appelle la géographie classique, c'est-à-dire au fond, quand on pense géographie, on pense beaucoup géographie physique. Ce sera d'ailleurs son premier ouvrage, La Terre, qui a été un immense succès, mais qui se termine sur un chapitre qui est La Terre et l'Homme. Et donc, il veut raconter le monde au plus grand nombre de lecteurs possibles. non pas pour gagner beaucoup d'argent, il n'a jamais été quelqu'un de très intéressé par ça, mais pour diffuser, pour transmettre la connaissance. Et la nouvelle géographie universelle, qu'il écrit seul, ou certains volumes comme La Russie avec l'aide de Kropotkine, auquel il rend d'ailleurs hommage dès le début du volume, Bakounine d'ailleurs aussi y a participé, mais c'est essentiellement son travail. Et c'est composé comme ça, à la fois un découpage, c'est lui qui le pense, avec un découpage qui parfois peut nous surprendre aujourd'hui. Ce serait intéressant d'ailleurs de revoir comment Élisée Reclus divise ce monde. Parce qu'on voit bien dans quel contexte, si vous voulez, on pensait les choses à ce moment-là, déjà. Et en plus, il va décrire toujours, il démarre par les paysages. C'est un amoureux des paysages, Élisée Reclus. Il a une sensibilité aux paysages. Il raconte dans sa correspondance que quand il monte avec son frère sur les hauts sommet des Pyrénées, et il découvre la mer et d'émotion, il va le mordre jusqu'au sang à l'épaule, tellement il est bouleversé par ce qu'il voit. Donc le paysage est très très important. Or, il a énormément voyagé pour faire la géographie universelle, non seulement en Europe, mais il est allé en Égypte, il est allé au Brésil, il est allé en Argentine, il est bien évidemment allé aux États-Unis, il est allé au Mexique, il est allé en Algérie, il est allé en Tunisie, il est allé au Maroc. Bref, il a énormément voyagé. Il voulait aller voir lui-même, se rendre compte, rencontrer des gens, échanger, discuter. Je crois que ça, c'est vraiment... le premier à avoir fait ça. Humboldt voyage beaucoup, mais pas de la même façon. C'est pas le même type de voyageur. Bon, et il noircit ses carnets, fait des dessins, il est voilà. Et c'est ça qui va faire tout le charme, on va dire, de la nouvelle géographie universelle, parce qu'il les a vus. C'est beaucoup d'entre eux, ces gens. Il a dessiné leurs costumes. Il fait faire un nombre de gravures, mais incroyable. Et puis surtout, vous pensez qu'il y a presque 5000 cartes dans la nouvelle géographie universelle. Et là, je dis, mais mon Dieu, quel merveilleux éditeur qu'était Hachette. C'est Templier, le gendre de Hachette, qui va quand même lui faire signer, alors qu'il est prisonnier à la suite de la Commune, sur l'île de Trébeuron, dans la rade de Brest, cet extraordinaire contrat. Et quand ça ne se vendra plus à la fin, Hachette va lui assurer, jusqu'à la fin de sa vie, des rentes en hommage à ce qu'il a pu représenter pour la maison d'édition. Vous trouvez pas ça fabuleux, vous ?
Ah si, bien sûr. Mais pour revenir à l'extrait qu'on a entendu, d'ailleurs, c'est vraiment un extrait, parce qu'en fait, tout le chapitre est extrêmement détaillé sur le potentiel agricole de l'Inde. Il y a énormément de chiffres qui sont tous datés sur le nombre de morts liés aux famines sur des siècles et des siècles. Et justement, je voudrais qu'on revienne sur cet extrait, parce que c'est intéressant. Lui, il explique notamment la famine, parce que les exploitations agricoles indiennes sont exportées et en fait ne sont pas
les produits des exploitations. Voilà. En fait, il y a de la spéculation.
Oui,
c'est
oui.
Tout. On fait de la spéculation et ceux qui peuvent payer cher, eh ben, ils achètent le riz. Puis ceux qui peuvent pas, ils mangent pas et meurent de faim. Jusqu'à le XXe siècle, ce sont de sortes de situations qu'on a pu retrouver. Mmh. Et c'est là où il est absolument étonnant, parce que Élisée Reclus pèse anarchiste, et je pense que vous, libertaire, si vous voulez, et pas seulement géographe, la domination des plus forts sur les plus faibles. Mais il est même plus fin que ça. Parce que dans certains, je pense à l'Afghanistan quand il écrit, il parle, c'est dans L'Homme et la Terre, de la hiérarchie de l'oppression. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire mm-hmm. que c'est pas, il ne voit pas les dominés comme étant tous gentils. Hein, mais il dit non. Pour pouvoir être généreux, il faut avoir les moyens de l'être. Et que parfois, on est au contraire dans la survie. Et donc, il y a la hiérarchie de l'oppression. Donc, dans le volume sur l'Inde, il y a les spéculateurs, puis il y a tous les intermédiaires aussi, jusqu'au paysan qui, lui, ou à celui qui n'a pas les moyens d'acheter. Et ça, c'est totalement novateur. C'est d'autant plus novateur qu'après, vous aurez, dans la géographie universelle dirigée par Vidal de la Blache, vous n'aurez pas forcément ce même type d'analyse.
Oui, et donc un rapport de domination à plusieurs échelles, on l'a entre les hommes, entre l'État et son peuple, et aussi entre les États et les puissances de l'époque. Et c'est là où il est notamment précurseur dans une manière de penser la géographie, puisqu'il s'agit déjà, alors je ne sais pas si le terme existe déjà, mais il s'agit de géopolitique.
Alors, le terme est créé effectivement tout à fait à la fin du 19e, mais on parlait aussi de géoéconomie, de géopolitique, de géohistoire, c'est un peu dans un ensemble comme ça. Certainement pas de la géopolitique telle que, du moins à Hérodote, on essaye de la mettre en pratique. Donc, je pense pas que Lisée Reclus avait l'impression qu'il faisait de la géopolitique, il faisait de la géographie. Mais il faisait de la bonne géographie. Et d'une certaine façon, si la géographie n'avait pas évincé le champ du politique de son champ géographique, si elle l'avait gardé, on n'aurait peut-être jamais repris le terme de géopolitique, on aurait continué à parler de la géographie comme on parle de l'histoire. Alors on peut parler d'histoire économique, d'histoire politique, mais en fait c'est l'histoire. Eh bien la géopolitique, c'est de la géographie qui s'intéresse plus à des rivalités de pouvoir sur des territoires pour en prendre le contrôle ou pour le garder et en exploiter les ressources. Ça, c'est la définition, j'allais dire, de base qu'a donnée Yves Lacoste. Elle est un peu plus compliquée que ça parce qu'on tient compte des représentations que les différents protagonistes se font du territoire en jeu. Et ce qui est effectivement très important, ce que ne faisait pas exactement Élisée Reclus. Mais on n'a aucune raison de le lui reprocher compte tenu de l'époque où il écrit. Donc c'est extrêmement important d'insister sur combien Élisée Reclus a été, par ses convictions politiques essentielles et par son goût, j'allais dire, de l'autre, des autres, réussir une nouvelle géographie universelle, dépassée par certains aspects, c'est bien évident. Mais je vous assure que vous avez lu ce passage sur l'Inde, c'est un passage qui est d'une pertinence absolument remarquable. Et donc, quand vous pensez que très souvent on a pu expliquer les famines beaucoup plus tard, parce que c'était la sécheresse à cause du climat ou d'une mauvaise météo, lui dit non, c'est pas ça le problème, hein, c'est pas la mauvaise météo, c'est simplement qu'il y a des gens qui spéculent avec la pauvreté et avec la famine, donc la famine est orchestrée, organisée. Mais quand on a encore des famines, vous savez, au moment du Sahel ou en Éthiopie, il n'y aurait eu aucune raison que les gens meurent de faim. Simplement, il aurait fallu juste organiser la distribution en temps et en heure. Donc, il y a une actualité reclusienne, parfois, qui est tout à fait remarquable.
Il était très pertinent, comme vous le dites, mais il avait aussi beaucoup d'intuition. Et notamment, quand il étudie les rapports entre les grandes puissances coloniales, il voit un peu l'avenir.
Vous avez raison. Vous avez raison, il a beaucoup d'intuition. Mais je m'interroge toujours un peu sur... L'intuition, elle n'est pas là par hasard, je crois. Hein. Et je vous ai dit, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse à la fois sur les temps longs, hein, les temps longs, les temps courts, son rapport à l'espace, les grands espaces et les situations locales. C'est cette façon qu'il a, j'allais dire, d'associer espace et temps, et de comparer. Ça, je crois que c'est très important. Il compare beaucoup. Ce qui va lui permettre de ne pas se laisser, prendre dans un raisonnement trop, trop formaté, trop simple. Ah oui, là, ça s'est passé comme ça. Ah oui, mais là, ça s'est passé autrement. Et pourtant, il y avait des points communs. Donc, qu'est-ce qui fait... C'est ça le travail d'Élisée Reclus, si vous voulez. Alors, on peut penser ça pour des intuitions. Par exemple, il voit très bien la rivalité entre l'Empire russe et ce qui deviendra l'Empire américain. Mais pourquoi ? Il a séjourné longtemps aux États-Unis. Il y est retourné quand il a écrit le volume sur les États-Unis. Ce qu'il dit de New York, la carte qu'il fait de Manhattan, de l'île de Manhattan, avec cette précision. C'est un observateur exceptionnel. Ce qu'il voit de la situation des Noirs aux États-Unis, qu'il perçoit bien comme, au fond, peut-être qu'ils seront libres un jour, mais ils resteront noirs, donc on les verra toujours comme esclaves. Et dans ces rapports de pouvoir, je pense que très... Oui, il a un esprit aiguisé. Hein, sur ce qui va être la domination. Il comprend bien, alors ce qui peut l'expliquer aussi, c'est comment il s'intéresse énormément aux échanges économiques et comment il voit que les échanges économiques sont source de puissance.
Donc, un esprit très aiguisé, vous l'avez dit, son œuvre, elle est quand même colossale. On peut s'attendre à trouver des contradictions.
Oui, oui, bien sûr, en particulier la question juive. C'est une vraie contradiction. Mais c'est un homme du 19e. D'abord, la gauche, anarchiste ou pas anarchiste, marxiste, a toujours été un peu antisémite, voyant les juifs comme des banquiers, donc comme des capitalistes. À partir de ce moment-là, ils étaient dans le mauvais camp. Donc c'est déjà ça. Donc c'est vrai, il y a des pages antisémites écrites par Élisée Reclus qu'il faut pas masquer. Mais aussi, c'est celui qui va analyser en Russie ce qu'il appelle l'immense ghetto russe, puisqu'ils étaient sur des territoires desquels ils ne pouvaient pas s'éloigner. Et ils étaient assignés à résidence d'une certaine façon. Et il va dénoncer ça. C'est lui qui parle des pogroms en Ukraine. Donc à la fois, il est capable de dénoncer des pogroms et puis avoir un discours tout à fait antisémite d'un anarchiste du 19e siècle.
Merci beaucoup, Béatrice Giblin. Je rappelle que vous êtes géographe et directrice de la revue Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Vous avez consacré deux numéros de cette revue à Élisée Reclus. Les références sont à retrouver sur le site de France Culture. Et parmi vos ouvrages, on peut citer Élisée Reclus, un géographe d'exception, publié par les éditions Kern en 2021. Et merci à Nicolas Berger pour ses lectures, merci à Daphné Leblon à la réalisation. À la technique, c'était François Saint-Jour. Et on se quitte sur une chanson de John Baez, The Salt of the Earth, le sel de la terre. Dans le prochain épisode, Élisée Reclus participe au soulèvement de la Commune dès 1871, ce qui lui vaudra une condamnation à l'exil, l'occasion pour lui de parfaire sa pensée libertaire et anarchiste. Of gray-suited grafters, a choice of cancer or polio. And when I search a faceless crowd, swirling mass of gray, black and white, they don't look real to me. In fact, they look so hardworking people. Let's think of the lowly of birth. Spare a thought for the ragtaggy people. Let's drink to the salt of the earth. Let's drink to the hardworking people. Let's drink to the salt of the earth. 3,000